France Musique. France Musique.
Et nous sommes avec nos deux premiers invités de l'été, le chef Sébastien Dossé, chef de l'ensemble Correspondance, qui présente ici au Festival d'Aix-en-Provence Combattimento, la théorie du signe noir. C'est jusqu'au 18 juillet, ce sera sur France Musique en direct mercredi, le 7. Et de l'autre côté, le baryton Stéphane Degout, qui chante dans Falstaff, le rôle de Ford, jusqu'au 13 juillet, ici aussi à Aix-en-Provence, avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigé par Daniele Rustoni, concert le 14 juillet également avec l'Orchestre Symphonique de Londres sous la baguette de Clément Maotakatch et de Susanna Melki dans un programme Sibelius Sariao. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous avez écouté comme moi cette chanson des frères Jacques, la cantatrice. Stéphane Degout, est-ce que ça vous inspire quelques souvenirs? Est-ce que vous avez été confronté dans votre carrière à des chanteuses ou des chanteurs qui ne savaient pas chanter?
J'ai pensé à quelques collègues là en écoutant.
Mais vous ne direz pas de nom, bien sûr. Est-ce que vous avez travaillé déjà ensemble tous les deux? Parce que Stéphane Degout, vous faites pas mal de musique baroque.
Oui, il y a 5 ans, la Saint-Mathieu avec Raphaël Pichon. Sébastien était au Continuo, oui. Et pas depuis. Et en tout cas, pas sous étendard Correspondance.
En tout cas, on va dire quelques mots pour commencer de Falstaff, des représentations. Je crois que ça plaît. On a lu quelques extraits de la presse ce matin. Vous faites l'unanimité, Stéphane Degout, dans le rôle de Ford. C'est la première fois que vous chantez de cet opéra?
Oui, c'est la première fois. Oui. Ouais.
Très différent des autres opéras de Verdi. Hein.
Je connais assez peu Verdi. J'ai chanté Rodrigue dans Don Carlos il y a 3 ans. Là, on est vraiment sur le côté comédie ou un peu farce même de Verdi. Et en italien, donc oui, effectivement, c'est très différent pour moi, mais oui.
Par contre, vous avez un personnage qui n'est pas si comique que ça, hein, qui est, c'est comique dans sa jalousie.
Voilà, c'est le mari jaloux, colérique, etc., mais qui a un bon fond, et qui est quand même attachant, parce qu'à la fin, c'est lui qui pardonne à sa fille de lui avoir joué ce tour, et qui propose à Falstaff de se joindre à la fête finale, etc.
Ce Falstaff est mis en scène par Barry Kosky, qui est vraiment un des grands noms du comique, notamment à Berlin, au Comischoper, qui l'a dirigé pendant quelques années. C'est aussi Falstaff, et c'est sa lecture, je crois, un hymne à l'hédonisme, hein, au plaisir de manger, de boire, de faire du sexe. Alors, comment est-ce que ça résonne pour vous en cette période de crise sanitaire qui n'était pas franchement versée dans l'hédonisme ces derniers mois?
Non, c'est sûr. Et c'est peut-être une façon un peu gentille, simple, brillante de dire voilà, cette crise est, espérons-le, derrière nous. On peut revenir, comme on le dit à la fin, tout ça n'était qu'une farce, tout ça n'était que... On va profiter de la vie, tout simplement. Et puis, alors, ce Falstaff était programmé bien avant que cette crise ait commencé, donc c'est un peu un hasard de chanter ça maintenant... en espérant que tout ça soit effectivement sur la fin. Mais il y a de toute façon, dans tout cet opéra, et puis dans la mise en scène de Barry aussi, un pied de nez à tout, à cette façon de se prendre au sérieux pour la moindre chose, de se dire à la fin, bon, en fait, c'est pas si compliqué, franchement, on pourrait juste sourire, respirer un bon coup et se faire plaisir. Et c'est une très belle philosophie, assez générale, je trouve, pas seulement dans cette situation.
E sogno Che mani che
Du grand air de Ford au deuxième acte de Falstaff, interprété par vous, Stéphane Degout, avec l'Orchestre de l'Opéra National de Lyon sous la baguette de Daniele Rustioni. C'est un son que nous avons volé à la représentation du 3 juillet dernier, il y a deux jours. Falstaff qui sera donc à vivre en direct sur France Musique à 21h30, demain, mardi 6 juillet, avec l'ami Judith Chen. Même quand on ne comprend pas l'italien, on sent qu'il n'est pas content, hein, Ford, à ce moment-là. Mais alors,
oui,
pas content du tout.
Très grosse crise de jalousie. Il arrive chez Falstaff en étant sûr de son coup, de lui tendre un piège, et il se rend compte que on lui a tendu un piège derrière, et enfin que sa femme et les autres femmes de la famille lui ont tendu ce piège-là. Donc il n'est pas content, non?
Voilà, il a bien raison. De l'autre côté, alors on l'a dit tout à l'heure, Falstaff, un spectacle qui redonne un petit peu le sourire en cette période de crise. C'est aussi un spectacle finalement, comment dire, qui a pour but de rassurer, de redonner espoir, que vous nous avez préparé, concocté, Sébastien Dossé, Combattimento, la théorie du signe noir, qui se joue ici à Aix-en-Provence jusqu'au 18 juillet. Alors c'est quoi? C'est une sorte de pasticcio, une sorte d'opéra baroque italien reconstitué.
C'est assez difficile de trouver un terme qui définisse très précisément ce qu'on a fait avec Sylvia, parce que je crois qu'il y a pas vraiment de ressemblance. Oui, il y a l'idée de passif, parce que c'est une collection d'œuvres musicales. Oui, il y a l'idée d'opéra baroque italien, parce qu'il y a notamment la musique des premiers opéras de Cavalli. Mais la forme qu'on a fabriquée, en définitive, je crois que j'ai du mal à lui trouver un terme très exact.
Peut-être un patchwork, on peut essayer.
Oui, on pourrait dire un patchwork. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on part d'une œuvre qui est le Combattimento de Monteverdi, qui lui-même n'a pas vraiment de registre, de case bien particulière, parce que c'est pas vraiment un opéra.
C'est pas un madrigal.
C'est pas un madrigal non plus, même s'il est édité au milieu d'un livre de madrigal. Donc, il y a l'idée d'une œuvre expérimentale, et peut-être que c'est ce qui définit le mieux ce qu'on a fait aussi.
C'est quoi cette théorie du signe noir?
La théorie du signe noir, c'est une théorie qui, à l'origine, vient du domaine des statistiques, qui définit un événement qui était absolument improbable, mais qui advient et dont la réalisation change le cours du monde.
Par exemple, le Covid, on pourrait dire que c'est la théorie du signe noir.
Alors, ça pourrait être un signe noir.
Vous connaissiez, vous, ça, Stéphane Degout, la théorie du signe noir?
J'avais entendu parler de ça, mais voilà, c'est plus clair maintenant.
Alors, c'est un spectacle qui est à la fois un message d'espoir, après la pluie, le beau temps, c'est un petit peu la dramaturgie de ce spectacle, mais c'est aussi un spectacle qui raconte un moment de l'histoire de la musique qui est cette théorie du signe noir, ce cataclysme. C'est Monteverdi, son Combattimento. C'est quoi? C'est le passage de la Renaissance au baroque, on pourrait le dire comme ça.
Ouais, en tout cas, c'est peut-être pas cette œuvre-là en particulier, mais c'est une époque de passage. C'est une époque où, venant du langage de la polyphonie, de l'idée de construire le son par la superposition des voix, on change complètement de système et on en vient à une expression beaucoup plus individuelle, beaucoup plus libre, qui est beaucoup plus calquée sur les émotions du texte. Donc c'est vraiment un changement d'univers à ce moment-là, et c'est un univers dans lequel on se trouve toujours, donc ça a vraiment changé la face du monde. Tutti i mali volti io prenderò in tasca e con l'uso delle mutanze mie vaneggiano col sogno avanti le
Voilà un extrait de ce spectacle, Il Combattimento, la théorie du signe noir, spectacle de l'ensemble Correspondance, mise en scène par Sylvia Costa ici à Aix-en-Provence, un spectacle que vous pourrez suivre sur France Musique mercredi soir, le 7 juillet. En direct. Alors là, c'était un extrait du prologue des Amours de Daphné et d'Apollon de Francesco Cavalli avec l'ensemble Correspondance. Je voudrais qu'on revienne quelques minutes à Falstaff. C'est un petit peu un match ce matin entre Falstaff et le Combattimento. Pas un match, un Combattimento, on va dire tout simplement. Mais non, il n'y a pas de combat. Falstaff, parce qu'on m'a dit, j'ai pas encore eu le temps de voir le spectacle, on m'a dit que au moment des entractes, il y avait des voix qui susurraient des noms de plats gastronomiques. Alors je sais que vous êtes un passionné de cuisine. Moi aussi, d'ailleurs, je sais que vous êtes un grand gourmet, Stéphane Degout. Et alors, il paraît qu'ils ont une manière de susurrer le titre des plats qui est très érotique d'une certaine manière. Est-ce que
vous... Oui, c'est Barry qui leur a demandé. C'est Antoinette et Rodolphe qui lisent ça après avoir couru sur la scène pendant 10 minutes. Ils sont un peu essoufflés. Parce qu'ils les lisent en direct. Ça, c'est plutôt... Ça donne une autre dimension à la lecture, et Barry leur a demandé de lire ça comme s'il lisait des romans érotiques, effectivement.
Est-ce que vous trouvez-vous qu'il y a une dimension érotique dans la cuisine ?
Oui, il peut, effectivement, oui. Bien sûr.
Vous êtes un gourmet, vous aussi, Sébastien Dossé ?
Moi, je cuisine pas aussi bien que Stéphane, mais j'aime beaucoup manger.
C'est une légende, hein ? Enfin, c'est une légende. Non, je sais que c'est une vraie
avérée.
Légende, mais c'est une légende au sens légende vivante. Tous les gens qui viennent et qui vous connaissent ne parlent que de la cuisine de Stéphane Degout. Bah, tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on cuisine là, à Aix-en-Provence, en ce moment, entre deux représentations ?
Ah, moi, je fais le marché tous les matins et je mange beaucoup de poissons. Parce qu'il y a deux, trois poissonniers sur le marché de la place Richelme qui sont vraiment très bons. Donc j'en profite. Et les produits frais, des tomates de la place Richelme, c'est la petite Marie qui vend les tomates qui sont exceptionnelles. Il y a une autre dame qui s'appelle Nathalie, je crois, qui vend des oignons, des courgettes, des choses comme ça, qui sont de son jardin. Elle a les mains pleines de terre. C'est formidable. J'aime beaucoup ces gens-là.
Voilà, de la cuisine à retrouver, sinon en vrai, en tout cas en voix, lors de ce Falstaff ici à Aix-en-Provence, pendant encore quelques jours, à suivre demain soir sur France Musique. Vous allez participer aussi à un autre concert consacré à Kaya Saariao. Ça, ce sera le 14 juillet. Alors là, on est à l'opposé total de Verdi vocalement.
Oui, encore que ce soit une écriture aussi très vocale. C'est-à-dire, il y a de la mélodie dans son écriture, on n'est pas dans des recherches d'intervalles compliquées, on est dans quelque chose d'assez sensuel même dans le chant, et qui colle très bien à ce texte qui est un texte de, comment il s'appelait, Geoffrey Rudel, je crois, qui est un poète médiéval, d'amour courtois, mais en plus précisément l'amour de loin, d'ailleurs qui est le titre d'un de ses opéras, à Kaya Saariao. Et on est dans un texte qui est assez raffiné en fait, et aussi dans un chant qui est assez raffiné.
Donc vous retrouvez dans ce texte-là le plaisir de la mélodie que vous avez par ailleurs aussi. Vous avez beaucoup chanté Debussy, je pense, par exemple.
Oui, absolument.
Ouais,
oui.
On retrouve cette finesse-là. Bon, on va vous écouter, tiens, dans la musique de Debussy. Une des trois mélodies, c'est L'échelonnement des haies moutonnent à l'infini. C'est un beau titre, ça.
Oui.
Moutonne à l'infini, mer claire dans le brouillard clair, qui sent bon les chenepins. Des arbres et des moulins sont légers sur le vert tendre, où vient s'ébattre et s'étendre l'agilité des poulains. Dans ce vague d'un dimanche, voici se jouer aussi de grandes brebis aussi douces que la laine blanche. Tout à l'heure des fêles longues roulées en volute de cloches comme des
La voix de Stéphane Degout avec Alain Planès au piano. C'était L'échelonnement des haies moutonne à l'infini, extrait des trois mélodies de Claude Debussy. Pourquoi on écoute du Claude Debussy, vous allez me dire, puisqu'on parle de Verdi d'un côté et de Monteverdi de l'autre? Eh bien, parce qu'on parlait de la place du texte dans la mélodie, dans l'opéra. Et c'est cette question, Sébastien Dossé, qui est vraiment à l'œuvre. D'ailleurs, à l'époque de Monteverdi, c'est le moment de l'histoire de la musique où le texte reprend un petit peu le dessus. On cite souvent cette fameuse opposition prima la musica, prima les paroles.
Alors, je dirais que non seulement c'était le cas à l'époque, mais c'est aussi un principe qui nous a animés avec Sylvia Costa pour construire ce spectacle. parce qu'on est parti du combattimento avec l'idée que cette œuvre qui ne dure que 20 minutes, il doit se passer quelque chose ensuite. Il faut raconter la suite, non pas de façon narrative, non pas la suite de l'histoire de Tancrède après la mort de Clorinde, mais raconter un processus qui va suivre pour toute une communauté. Et ce qui était intéressant pour moi dans ce spectacle-là, c'est qu'on est vraiment à mi-chemin entre des œuvres anciennes et puis de la création. Et le processus de création avec Sylvia, c'était que moi, je puisse trouver des textes qui vont raconter la dramaturgie qu'elle veut porter. Donc je suis allé chercher beaucoup de textes dans toutes sortes d'œuvres, sacrées, profanes, des opéras, etc., pour coller les uns après les autres, qu'ils racontent l'histoire que veut porter Sylvia. Donc je suis parti vraiment du même principe de donner la primauté au texte pour ce spectacle.
Alors on a cité évidemment le Combattimento de Monteverdi, qu'on en peut entendre en intégralité dans le spectacle, mais il n'y a pas que du Monteverdi, on a cité Cavalli, il y a plein d'autres compositeurs, et il y en a un notamment que je ne connaissais absolument pas, je ne vais pas retrouver son nom
Masaino.
Là, à l'instant. Voilà, c'est ça. Et alors c'est qui celui-ci?
Mais Masaino, c'est un des rares compositeurs qui sort de ma zone de contrainte, parce que je me suis dit qu'il fallait que je montre de la musique des 10 ans qui ont suivi la publication du Combattimento, simplement pour jauger un peu l'effet que cette œuvre a produit sur ses contemporains. Mais pour autant, aussi parce que Monteverdi était un homme qui pratiquait à la fois la plus grande modernité, la plus grande recherche, la plus grande expérimentation, mais aussi le style ancien, le style de la Renaissance, le style de la polyphonie, j'ai voulu mettre en regard de ce style moderne trois œuvres qui sont un cycle de Leçons de ténèbres de ce compositeur Masaino, donc publié à Rome en 1599 et qui est un sommet de polyphonie. Alors c'est un homme qui est peu connu mais qui a eu une très belle carrière, même si elle était très itinérante parce qu'il a dû beaucoup se déplacer pour des histoires de mœurs. Donc il a entre l'Italie, Vienne, Innsbruck, Prague, etc. Il a beaucoup bougé, mais je pense que c'est un compositeur de la Renaissance qui mérite vraiment une attention particulière.
Ça arrive souvent ça. Chez les compositeurs italiens, j'ai l'impression, les problèmes de mœurs. Il y a Stradella aussi, lui, il a passé son temps à fuir, j'ai l'impression. Non, Verdi, ça allait. Il était plutôt sérieux, Verdi, dans la vie, Stéphane Degout.
Ah, je ne connais pas vraiment sa vie, mais je crois que c'était quand même le bon papy.
Oui, voilà, c'est ça.
Bien bourgeois, bien.
On va bientôt se quitter avec un dernier extrait. Je voudrais qu'on écoute, Sébastien Dossier, un extrait de votre dernier disque consacré entre autres à la musique de Heinrich Schütz, dont on entend les dernières paroles du Christ en croix, Da Jesu an dem Kreuz stund. Il me fait 2 pouces. Je sais, c'est épouvantable quand je parle allemand. Pourquoi je voudrais qu'on écoute la musique de Schütz? Parce que ce serait un des exemples de la continuité peut-être du style italien dans le baroque allemand.
Oui, je pense que la veine de Monteverdi, elle a été tellement forte et prégnante sur toute l'Europe que on retrouve chez certains Français, bien sûr chez ses élèves, chez les gens qui ont suivi directement son enseignement, ce style qui les a tous marqués de façon très forte.
Merci à tous les deux d'être venus nous voir, Stéphane Degout et Sébastien Dossé, ce matin. On va rappeler les 2 actualités principales. Combattimento, la théorie du signe noir, c'est ici à Aix-en-Provence et c'est sur France Musique le 7 juillet en direct. Et puis Falstaff avec Stéphane Degout, Falstaff mise en scène par Barikowski, c'est jusqu'au 13 juillet et c'est à suivre demain soir à 21h30 ici à Aix-en-Provence. Et bien on se quitte comme prévu avec la musique de Heinrich Schütz.
Und dir sei mein Leichnam war.
le début de cette dernière parole du Christ en croix de Heinrich Schütz, interprétée par l'ensemble Correspondance. Et c'est ainsi que se referme cette émission. Je vous donne quand même la réponse du jeu du jour. C'était bien sûr le piano bastring, qui ne désigne pas l'accordéon, mais un piano naturellement ou volontairement désaccordé qu'on aime bien dans certains répertoires comme le ragtime ou le charleston. Restez à l'écoute dans quelques instants, l'été classique avec Jean-Baptiste Urbain qu'on partira retrouver à Paris. Merci à l'équipe qui m'accompagnait aujourd'hui. Amina à la technique, ici à France Bleu Provence. Merci à Taïsia Froidure à la réalisation. Et merci aussi, voilà, oh là, quand j'écris pas, c'est terrible, on oublierait le nom de sa mère. Merci à... Merci. Mais comment elle s'appelle? Marion Guillemet, bon sang, mais il n'y a qu'elle. Merci à tous de m'accompagner ici à Aix-en-Provence. Je vous dis à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.